Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la relation Chine-États-Unis. Une relation qui promet de surprendre avec l'arrivée prochaine de Donald Trump à la Maison-Blanche. Déjà, les jours passés depuis l'élection de novembre ont apporté leur lot de nouveautés, interrogeant sur l'équilibre international et le compromis stratégique sino-américain qui garantissait une paix malaisée mais durable dans la sphère Asie-Pacifique. Le coup de téléphone entre Donald Trump et la présidente de Taïwan a semé la tempête. Ce contact formel est du jamais vu depuis 1979, l'année du rétablissement des relations diplomatiques sino-américaines, un revirement de la diplomatie washingtonienne qui vient rompre un arrangement datant de Richard Nixon selon lequel il n'existe qu'une seule Chine. Analyse de la relation sino-états-unienne avec nos invités et ce qu'il faut en attendre avec la nouvelle présidence américaine. Valérie Niquet, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique, bonjour.
Bonjour.
Jean-François Huchet, professeur des universités. Cité à l'INALCO, auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier, La crise environnementale en Chine, évolution et limites des politiques publiques aux éditions Les Presses de Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Luc Domenac, chercheur à Sciences Po, directeur de recherche émérite au CERI. Dernier ouvrage paru, Les fils de princes, une génération au pouvoir en Chine, aux éditions Fayard. Bonjour.
Bonjour.
Le coup de téléphone entre Donald Trump et la présidente taïwanaise, suivi de tweets très agacés du président américain à l'encontre de la monnaie chinoise, de la taxation des marchandises américaines en Chine et des projets chinois en mer de Chine du Sud. Quelle lecture faites-vous chacun de ce qui se passe aujourd'hui dans la relation Chine-États-Unis? Qu'est-ce qui se cache finalement dans le fond? Est-ce qu'il y a une hostilité face à l'émergence chinoise? Où en est-on, Valérie Niquet?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'était habitué à l'idée que, à chaque nouveau président, les Chinois testaient la nouvelle présidence. Et d'ailleurs, tout le monde s'attendait et s'attend encore à ce que Pékin cherche à tester les réactions éventuelles, la capacité de réaction des États-Unis. Et là, brutalement, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les États-Unis qui envoient la balle dans le camp de Pékin. Et j'avoue que autant, évidemment, on peut avoir des doutes sur Donald Trump, autant cette... Alors, est-ce qu'elle est volontaire? Est-ce que c'est le résultat d'un certain nombre de conseillers dont on sait qu'ils sont tout à fait favorables à un rapprochement avec Taïwan? L'idée de mettre une sorte de coup de pied dans la fourmilière des relations sino-taïwanaises et surtout dans la manière dont on considère nos propres relations avec Taïwan est assez intéressante et j'observe avec beaucoup d'intérêt les évolutions que ça va entraîner du côté chinois. Et ce que je note pour le moment, c'est que même si sur le web chinois ou dans certains journaux, on a des réactions relativement dures, officiellement, pour le moment, les Chinois sont extrêmement prudents. Parce qu'évidemment, si on décidait de bouleverser totalement notre système de relations, non pas de reconnaître Taïwan, mais au moins d'avoir plus de relations avec Taïwan, qui est, je rappelle, tout de même une démocratie, eh bien, que pourrait faire Pékin en réalité? Donc, je trouve ça extrêmement intéressant finalement.
Alors, on va bien sûr développer, Jean-Luc Domenac et Jean-François Huchet, un commentaire sur ce que vient de dire Valérie Niquet. Les relations tumultueuses, enfin, entre Pékin et Washington, elles ont toujours
comme
été tumultueuses.
Tout à fait d'accord avec la personne qui m'a précédé. Et je préciserai, disons, en utilisant mes recherches récentes, et en donnant un petit peu les raisons, disons, de cette prudence chinoise. Beaucoup de gens, quand ils travaillent sur la politique étrangère chinoise, ils croient que c'est seulement la politique étrangère de celle qui décrit les menaces chinoises sur l'Extrême-Orient, etc., etc. Mais il y a autre chose, c'est que l'étranger, pour la classe qui dirige en Chine, c'est du fric. Et donc, autant toute la partie, disons, armée, diplomatie en Chine s'inquiète un petit peu de ne plus pouvoir être aussi libre, peut-être bien que les Américains vont prendre l'habitude de protéger Taïwan, ça serait nouveau ça, hein, ça serait pas mal. Mais d'un autre côté, ce qui est peut-être presque encore plus grave, c'est... Et si les Américains commençaient à moins nous donner accès à leurs richesses, à leurs technologies, à tout ce dans quoi ils picoraient, disons, récemment. Et donc, beaucoup de gens en Chine, c'est bizarre, mais on ne sait pas que beaucoup de gens attendent des États-Unis des avantages économiques, des avantages financiers, des avantages scientifiques, technologiques. Un exemple, et puis je me tais, la famille du patron, là, Xi Jinping, on connaît Xi Jinping, mais la personne importante et la personne la plus intelligente, c'est sa sœur. Et sa sœur, elle, c'est la financière de la famille. Et ben pour la financière de la famille, ça c'est une sale histoire si ça devient compliqué de faire des petites affaires aux États-Unis avec les Américains. Donc vous voyez, c'est très compliqué.
Alors, Jean-François Huchet, sur la relation entre la Chine et les États-Unis et ce qui se passe en ce moment avec les déclarations de Donald Trump, un commentaire?
Ben écoutez, on a, comme d'habitude, et peut-être encore plus avec Donald Trump, des déclarations chocs sur le plan économique. On a remis sur la table des débats qu'on pensait... peut-être pas complètement oublié, mais qui était moins d'actualité sur, par exemple, le niveau du yuan. On a également un certain nombre de dossiers sur les questions de réciprocité, puisque les investissements chinois maintenant sont presque plus importants aux États-Unis que les investissements américains en Chine. Les choses sont en train d'évoluer. Donc, alors, ce qu'on peut dire, c'est que chaque pays détient des leviers différents pour faire pression sur l'autre. Mais que ce sont des économies quand même qui sont quand même assez intégrées sur le plan financier. La Chine détient de la dette américaine. Sur le plan également des transferts de technologies, Jean-Luc Dotnac vient de le rappeler, il y a quand même des choses importantes qui sont faites en Chine. Donc on va voir un petit peu ce qui va se dérouler dans les mois à venir, un peu comment ces deux grands pays vont se tester avec le dossier climatique aussi qui risque d'être assez intéressant aussi. Donc pour l'instant on est plutôt dans un round d'observation, on se teste et on va voir un petit peu comment on va faire jouer justement ces différents leviers.
Alors je rebondis sur le terme que vous employez à l'instant, Jean-François Huchet, le terme de levier. Valérie Niquet, est-ce que finalement cette question de Taïwan, ce coup de fil entre le président américain et la présidente de Taïwan, est-ce que Taïwan est aujourd'hui un levier dans la relation entre les États-Unis et la Chine? Alors peut-être aussi pour nos auditeurs, il est peut-être bon de réexpliquer comment la question de Taïwan continue d'avoir l'importance qu'elle a dans les relations sino-états-uniennes. Valérie Niquet.
Taïwan est important puisque les États-Unis, lorsqu'ils ont reconnu la République populaire de Chine, ont rompu évidemment les relations diplomatiques avec Taïwan, comme tous les pays qui reconnaissent Pékin, mais ils ont offert constitutionnellement d'ailleurs à Taïwan un certain nombre de garanties, notamment celle de toujours faire en sorte que les capacités militaires défensives de Taïwan soient au niveau des capacités potentiellement offensives de la République populaire de Chine. Donc à chaque fois, les ventes d'armes, c'est pour ça d'ailleurs que dans un de ses tweets, Donald Trump a dit « on vend des milliards de dollars d'armes à Taïwan, et je n'aurai pas le droit de prendre au téléphone la présidente démocratiquement élue de la République de Chine à Taïwan ». Donc, en fait, les relations entre Taïwan et les États-Unis et la Chine, ces relations triangulaires, sont très particulières. Et Pékin acceptait cet état de fait tout en s'y opposant verbalement régulièrement. Mais là, la grande différence, c'est que effectivement, ce sont les États-Unis. On verra comment les choses vont évoluer, mais ce sont les États-Unis qui, en tout cas pour le moment, semblent vouloir remettre à plat en fait le type de relations qu'ils entretiennent avec Taïwan. Alors, est-ce que c'est un levier ? Je ne sais pas si c'est véritablement un levier. On a beaucoup dit à une époque que entre la Corée du Nord, Taïwan, il pouvait y avoir des jeux complexes entre, notamment de la part de Pékin. Ce qui est certain, c'est que une des réactions intéressantes, c'est un analyste chinois assez connu qui s'appelle Shen Yihong, qui fait partie de ces analystes officiels qui transmettent la ligne. Furieux, évidemment, de la déclaration de Donald Trump, a déclaré « Eh bien, on devrait rompre les relations diplomatiques », ce qui serait intéressant à voir. Et que feraient alors les États-Unis sans la Chine sur la question de l'Iran, de la Corée du Nord et oublié le troisième élément, mais c'était les deux points les plus importants. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que pour le moment, le rôle de la Chine, bon, sur l'Iran, on peut éventuellement considérer que l'absence de veto était intéressante. Sur la Corée du Nord, les résultats ne sont pas éclatants. Donc effectivement, on peut imaginer que, encore une fois, les leviers côté américain sont tout de même encore plus puissants aujourd'hui, en dépit de cette interdépendance économique, que du côté chinois, surtout avec une économie, vous en reparlerez sans doute, qui a tendance à ralentir. Et la Chine a besoin, effectivement, des marchés extérieurs.
D'où le projet de la route de la soie, etc. Pour en rester avec Taïwan, quels changements sont à attendre ou peuvent arriver dans la relation entre Washington et Taipei. Et il est peut-être intéressant de se poser sur la notion de une seule Chine. Cette politique dite d'une seule Chine, est-ce qu'elle implique que les États-Unis considèrent Taïwan comme faisant partie de la Chine, Jean-Luc Domenach?
Il ne faut pas être trop exigeant avec M. Trump. Hein. Je ne sais pas bien ce qu'il croit vraiment. Il a une réaction d'homme d'affaires qui dit « on a quand même des cartes qu'on n'a jamais utilisées, autant s'en servir et ensuite il n'y a que du bonus hein. ». Je crois que c'est ça. Après tout, comme vous avez très intelligemment dit, nous vendons à Taïwan, pourquoi on ne leur causerait pas? Et puis ensuite, on verra. Et on ne perd jamais quand on fait des coups comme ça. Parce qu'ensuite, on peut voir, etc. Et ça ne manquera pas de conseiller qui lui diront « faites ceci, faites cela », etc. Mais en tout cas, je trouve très très intéressant que les Américains s'autorisent, disons, des possibilités que auparavant ils ne considéraient pas, si vous les voyez. Donc, et que donc, dans l'extrême-orient, la notion de l'extrême-orient va devenir encore plus importante qu'auparavant. Ça va être il va se passer plus de choses, comment dire, mais pas seulement avec la Corée, avec le Japon, mais avec Taïwan. Taïwan va rentrer, disons, dans le circuit.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
Alors, Taïwan va rentrer dans le circuit. Me vient cette question, on abordera ensuite les questions purement économiques, mais finalement, est-ce que l'île est promise à une place hiérarchiquement plus importante, du coup, dans la relation entre la Chine et les États-Unis? Et je vais au-delà, Valérie Niquet, est-ce que Washington prendrait le risque d'une intervention contre la Chine en soutien à Taïwan?
Alors, d'abord, une seule Chine, juste pour revenir, évidemment, officiellement, les États-Unis ne reconnaissent qu'il n'y a qu'une seule Chine, mais l'ambiguïté est qui est cette Chine, donc ça n'est pas levé. Et par ailleurs, dans la formulation de reconnaissance, les États-Unis ont utilisé un terme qui est, si on traduit, les États-Unis entendent, en fait, comprennent la position de chacun, qu'il n'y a qu'une seule Chine. Pour Pékin, c'est la République populaire de Chine. Pour Taïwan, évidemment, ça n'était pas la République populaire de Chine, mais bien la République de Chine. Donc c'est tout un jeu d'ambiguïté. Même s'il n'y a qu'une seule Chine, ils n'ont pas tranché en faveur de Pékin, contrairement à ce que la Chine voudrait. Évidemment, on reconnaît pour le moment qu'il n'y a qu'une seule Chine. Et j'ai perdu le fil de votre question avec cette réponse. Et donc, en fait, est-ce que les États-Unis
prendraient le risque d'une intervention contre la Chine?
Ils ont toujours été assez clairs. Il y a toujours cette ambiguïté là aussi qui a été maintenue. L'idée étant que tout de même, si la République populaire de Chine attaque Taïwan pour une réunification par la force, puisque ça fait toujours partie des options possibles, eh bien, on peut supposer qu'il serait très difficile aux États-Unis de ne pas se porter au secours de Taïwan si l'agression chinoise est très claire. Évidemment, si c'est l'inverse qui se produisait, comme en rêvait Chiang Kai-shek à une certaine époque, c'est-à-dire que Taïwan voulait reconquérir la Chine au cas où les indépendantistes seraient pris d'une
Taïwan, c'est juste 23 millions d'habitants contre...
Eh bien, évidemment, on peut imaginer que Pékin, que les États-Unis ne suivraient pas là. Mais évidemment, Taïwan ne va pas prendre la place de la République populaire de Chine, ne serait-ce qu'en termes de préoccupation. Pékin est bien plus important que Taïwan. Mais par exemple, autour de Donald Trump, on commence à parler d'un accord de libre-échange spécifique avec Taïwan en soulignant le fait que les échanges commerciaux, Taïwan est le septième partenaire commercial des États-Unis, par exemple. Donc, ça n'est pas négligeable du tout.
Voilà, c'est ce sur quoi je voulais rebondir pour vous donner la parole, Jean-François Huchet. Pas de relations, en tout cas, les relations diplomatiques rompues entre les États-Unis et Taïwan, mais tout de même, c'est exigeant. Et puis, des échanges commerciaux particulièrement importants.
Oui, il faut bien voir que depuis la fin des années 70, en fait, les Américains qui avaient énormément d'intérêt à Taïwan dans un certain nombre de secteurs, et notamment tout ce qui est électronique, finalement, les Taïwanais ont déplacé sur le sol chinois depuis à peu près 30 ans pratiquement toutes les capacités de production, de sous-traitance, qui travaillaient pour les entreprises américaines. Donc vous avez aujourd'hui une situation où vous avez des entreprises donneuses d'ordre qui sont aux États-Unis, qui se fournissent auprès de fournisseurs très high-tech pointus à Taïwan, qui conservent encore des choses sur l'île de Taïwan. Et puis toutes les parties assemblage sont dorénavant sur le sol chinois. Et tout ça circule à l'intérieur de réseaux des multinationales. Et donc on va observer encore une fois avec intérêt comment justement les firmes multinationales américaines vont se positionner par rapport à la politique de Trump, parce qu'il y a des intérêts quand même. Il y a à peu près 80 milliards d'investissements des firmes américaines sur le sol chinois. C'est pas rien, c'est pas... Il y a d'autres gros investisseurs. Mais vous voyez que, par exemple, la nomination apparemment annoncée du prochain ambassadeur des États-Unis en Chine est quelqu'un qui a été reconnu par Pékin comme un grand ami de la Chine, qui a été assez pro-ouverture du commerce sur le domaine de l'agriculture. Donc c'est quelqu'un qui, visiblement, n'a pas du tout volonté. En tout cas, dans ce qu'il a fait auparavant, ce n'est pas un personnage anti-chinois. Loin de là, puisque c'est quelqu'un qui est apparemment très bien accueilli pour l'instant par Pékin.
Donc pour retomber sur ce qui s'est dit en début d'émission, c'était votre propos, Valérie Niquet, où on nous expliquait que finalement chacun se testait en cette nouvelle période, et on parlera aussi de tout ce qui s'est passé pendant la campagne pour la présidentielle américaine, où on a vu les choses beaucoup bouger avec des réorientations. Je pense à la Malaisie, je pense aux Philippines. Qu'est-ce que l'on peut dire ? Alors, chacun se teste, mais la relation avec Obama n'était pas forcément une relation très facile entre Xi Jinping et le président Obama. Est-ce que malgré tout ce qu'on entend, chacun se teste, des grandes déclarations dans tous les sens, est-ce que finalement la relation entre Washington et Pékin pourrait finalement être une relation plus constructive, en tout cas différente, Valérie Niquet ?
Oui, alors il y avait une priorité en Chine, c'était tout sauf Clinton. Clinton étant l'artisane, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, de la fameuse politique du pivot, qui est vraiment considérée à Pékin comme une des menaces essentielles à laquelle la Chine devait faire face depuis quelques années. Donc, dans un premier temps, Trump était plutôt considéré d'une manière positive, et le reste dans une certaine mesure, avec l'idée qu'il est inexpérimenté, manipulable, qui fera pas ce qu'il dit, que justement... Et alors la grosse question d'ailleurs qui suit celle du test, c'est celle de l'entourage en fait de Donald Trump. Et on a assez peu de visibilité pour le moment. Il y a eu des nominations, mais notamment dans les équipes qui travaillent sur l'Asie et sur la Chine, on a des gens extrêmement néoconservateurs, très proches. Alors il y a le fameux article écrit par Navarro et Gray dans Foreign Policy qui lui est très très dur sur la politique chinoise, et des gens comme Michael Pillsbury par exemple qui ont écrit le marathon de 100 ans qui pense que Trump pourra mettre en œuvre une politique beaucoup plus dur face à la Chine que ne l'a fait Obama et Clinton. On a aussi des gens qui, dans les secteurs économiques, comme on le disait à l'instant, sont beaucoup plus ouverts à une coopération avec la Chine, et notamment au fait que les États-Unis devraient accepter d'entrer dans cette fameuse banque de développement asiatique, où pour le moment ils n'en font pas partie. Donc on a très peu de visibilité sur l'entourage de Trump, et ce qu'on dit aussi de Trump, c'est qu'il a tendance beaucoup à écouter le dernier qui parle, et donc il y a quand même une série de points d'interrogation. Quels que soient les tests actuels, le jeu actuel, les choses peuvent s'améliorer. C'est sans doute ce qu'espère Pékin. Elles peuvent aussi, c'est ce qu'espèrent certains autour de Trump, devenir beaucoup plus dures dans la relation entre les États-Unis et la Chine.
La question chinoise, en tout cas, c'est ce que j'entends de ce que vient de dire Valérie Niquet. Je me tourne vers vous, Jean-Luc Domenac. Elle est vraiment très présente dans les débats partisans à Washington.
Oui, à Washington et ailleurs. Et cela ouvre, disons, des possibilités auxquelles on ne pense pas assez. Parce qu'on avait l'habitude de considérer qu'il y avait des gens qui étaient des spécialistes, disons, et quand on parlait des Américains importants, il y avait Madame Clinton, etc., etc., etc. Maintenant, les cartes vont être rebattues. Et à propos d'une zone où les relations humaines comptent énormément, d'autant que, je le disais tout à l'heure, il y a toujours de l'argent. Quand il y a de la politique, il y a de l'argent, hein. C'est clair. Et quand il y a de l'argent, il y a les intérêts personnels.
Les cartes vont être rebattues, nous reparlerons de cela dans la deuxième partie de l'émission Géopolitique. Nous retrouvons nos invités Valérie Niquet, Jean-Luc Domenac et Jean-François Huchet dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la relation Chine-États-Unis. Nous retrouvons nos invités, Valérie Niquet, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique, Jean-François Huchet, professeur des universités à l'INALCO, auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier, La crise environnementale en Chine, évolution et limites des politiques publiques aux éditions Les Presses de Sciences Po, et Jean-Luc Domenac, chercheur à Sciences Po, directeur de recherche émérite aux séries. Dernier ouvrage paru, Les fils de princes, une génération au pouvoir en Chine, aux éditions Fayard. Jean-Luc Domenac, on a terminé la première partie de l'émission. Vous abordiez l'idée que les cartes allaient être rebattues entre la Chine et les États-Unis.
Oui, c'est à la fois, comme la plupart des commentaires le disent, parce que des options, disons, intellectuelles et politiques qui n'étaient pas considérées comme possibles avant peuvent être maintenant prises en compte, mais c'est aussi que les hommes peuvent changer. Et moi, je connais à Pékin, par exemple, des gens qui sont en train de se dire « ça va être peut-être mon tour ». Je connais un grand économiste qui a fait sa fortune en Chine parce qu'il avait nagé en venant de Taïwan, qui va se redécouvrir un certain nombre de contacts à Taïwan, etc., etc. Ça, c'est la première chose, les hommes. Et c'est très important dans cette région du monde, et peut-être plus qu'ailleurs. Mais deuxièmement, il y a aussi la question des partenaires. D'abord, le Japon. Il y a quelqu'un ici qui en sait plus que moi sur les options ouvertes au Japon. Positive ou négative, mais il y a la Corée. Et puis moi, je suis toujours très intéressé par ce qui se passe au Vietnam. Parce que eux, ce sont les seuls qui ont une vraie armée. Et quand ils se fâchent, ils se fâchent. C'est pas de la blague, si je puis dire, le Vietnam. Donc, j'ai l'impression que dans cette région du monde, les cartes vont être moins largement rebattues. En tout cas, il faut regarder ça de très, très près.
Pour aborder les questions purement économiques, Jean-François Huchet, on a entendu les attaques de Donald Trump sur la monnaie chinoise qui ont semé un certain trouble. Est-ce que le débat est dépassé? Je ne sais pas, peut-être vous nous l'expliquerez. Trump s'est dit hostile au libre-échange durant la campagne. Il a promis de taxer les importations chinoises à 45% et de renégocier les traités commerciaux existants et de ne plus en signer. Il a annoncé le retrait de Washington du traité transpacifique. Quelle lecture faire de tout cela? Et finalement, est-ce que ce match qui s'engage entre les États-Unis et la Chine ne peut finalement pas être un match gagnant-gagnant pour les uns et les autres?
Alors, la lecture, c'est bien sûr, il faut remettre ses propos dans la campagne américaine, ouais. et c'est un propos qui est quand même très largement orienté vers le public américain avant d'être orienté vers la réalité de la politique une fois que Donald Trump va prendre effectivement les rênes de la Maison Blanche. Il y a un certain nombre de dossiers comme le dossier du traité transpacifique qui finalement arrange les Chinois puisqu'ils n'y étaient pas dès l'origine. Ils avaient d'ailleurs, ils s'en étaient plaints d'être un peu exclus et ça avait effectivement accélérer ce nouveau projet de la nouvelle route de la soie qu'on peut un peu prendre comme une sorte de pacte sinica sur le continent eurasien où on va investir entre 4 à 5 000 milliards de dollars d'ici 10 à 15 années. Donc pour rappel, le plan Marshall, c'était 130 milliards de dollars actuels. Donc vous voyez un peu la dimension. Donc du coup, ça arrange les Chinois. La question de la protection du marché américain, il va falloir voir. Je pense qu'il y a effectivement des plaintes régulières, fréquentes des Américains, des Européens et des Asiatiques sur l'accessibilité au marché chinois, pas uniquement pour les produits, mais aussi pour tout ce qui concerne les investissements. Et cette question de la réciprocité des investissements, c'est-à-dire que quand vous investissez dans un pays, qu'est-ce que vous pouvez faire, répondre aux appels d'offres publiques, tout ça. Ça, c'est vraiment, je pense, le nœud du conflit aujourd'hui le plus important, pas uniquement pour les États-Unis, mais aussi pour l'Europe. Sauf que les États-Unis ont des armes pour se défendre que nous n'avons pas en Europe. Et d'ailleurs, on devrait bien...
Vous pensez à quoi?
Par exemple, le fait que pour se protéger de l'acier qui est visiblement vendu en dessous des prix de production aujourd'hui en Chine, on a appliqué la seule règle qui existe en Europe où on les a taxés de 25% supplémentaires. Les États-Unis ont fait la même chose, mais à 250%. Et c'était sous Obama. Donc ça montre que nous n'avons pas les mêmes armes. Et d'ailleurs, c'est discuté aujourd'hui. Vous le savez, ça va être discuté normalement la semaine prochaine, justement, pour voir si on accorde à la Chine le statut d'économie de marché. Donc, Il va falloir regarder un petit peu, là encore une fois, comment les deux pays vont essayer justement d'influencer et d'essayer de contrer en fait les offensives qui existent d'ailleurs depuis, c'est pas Trump qui va renouveler tout ça, hein, puisqu'elles existent déjà depuis assez longtemps. Donc la question de la dette aussi, détenue par les Chinois, est-ce qu'ils vont en vendre beaucoup plus ? Moi, j'en doute. Hein. C'était quand même un placement assez sûr pour les Chinois. Là, on a toujours dit qu'ils étaient dans le même lit, mais je pense que c'est véritablement vrai. Mmh. Et en même temps, sur les 19 000 milliards de dollars que représente la dette américaine, ils en possèdent 1 200. C'est beaucoup et pas beaucoup, en fait. Donc, les Américains peuvent se passer aussi des Chinois sur toutes ces questions. Donc, vous voyez que, après, le diable sera dans le détail, encore une fois.
Alors, le retrait des États-Unis du TPP qui satisfait pleinement la Chine, Jean-François Huchet vient de le dire, elle inquiète bon nombre de partenaires des États-Unis dans la région, Valérie Niquet. La campagne pour la présidentielle américaine a vu des réorientations, mais première chose, le premier visiteur finalement asiatique, ça a été le premier ministre japonais qui s'est rendu à Washington au lendemain de l'élection de Donald Trump. Quelle analyse faire de cela ?
Oui, parce qu'effectivement, au-delà du TPP, dans la campagne, certaines choses ont été dites, alors que les alliés des États-Unis en Asie sont en attente de ce qu'on appelle réassurance, un terme un peu particulier, mais déjà depuis de nombreuses années, justement face à la montée en puissance de la Chine, les Japonais veulent être rassurés, la Corée du Sud aussi, notamment face à la Corée du Nord et à ses essais nucléaires. Donc, face à ça, on se souvient que Donald Trump avait déclaré qu'il fallait payer plus, que les États-Unis payaient déjà trop et qu'après tout, pourquoi pas se défendre soi-même avec des capacités nucléaires au Japon ou en Corée du Sud, ce qui évidemment, non seulement serait potentiellement encore un peu plus déstabilisateur dans la région, mais également très coûteux et sans doute impossible à mettre en œuvre au Japon. Donc, c'est le grand risque, c'est celui du vide stratégique en fait en Asie. C'est pour la raison pour laquelle Abe s'est précipité à Washington pour essayer de mettre les choses au point. Alors, on dit, les rumeurs disent que c'est surtout lui qui a parlé pendant plus de 60 minutes.
Il a briefé. Trump
aurait écouté et la fille étant là pour essayer de cadrer un peu les choses et certains disent peut-être une future ambassadrice des États-Unis au Japon. Les Japonais officiellement sont assez contents de la rencontre et ont l'impression qu'ils ont fait passer leur message et que ça a été entendu d'une manière positive. Ce que je voudrais juste sur un point, je voulais revenir, c'est quand même une situation un peu difficile et complexe. Enfin, je pense qu'effectivement, il va falloir suivre ça de très près. C'est que non seulement il va y avoir l'arrivée d'un nouveau président un peu particulier aux États-Unis, mais en Chine, on est dans une année de congrès, le 19e congrès qui va avoir lieu au mois d'octobre. Et un Xi Jinping dont tout le monde dit qu'il est ultra puissant et dont, à mon avis, il est beaucoup moins que ce qu'on veut bien dire. Il a suscité beaucoup sont très agacés, c'est le moins qu'on puisse dire, par sa grande campagne de lutte contre la corruption qui bouleverse beaucoup de choses. Il n'est pas certain qu'il soit aussi soutenu que ça. Et en tout cas, on l'attend au tournant sur ce qu'il va pouvoir réussir à faire économiquement. Pour le moment, on n'y est pas. Enfin, la reprise n'est pas là. Et en termes de relations internationales, ça n'est pas très positif non plus. La Chine a réussi à se fâcher à peu près avec tous ses partenaires, si on met de côté la Corée du Nord et encore et des petits pays comme le Laos ou le Cambodge. Puis maintenant, le nouvel allié philippins. Mais enfin, les positions chinoises sont beaucoup moins bonnes qu'avant l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. L'économie est moins bonne aussi. Et donc, et là, il y a cette tension. Les États-Unis qui osent provoquer Pékin, ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant.
Donc, sur
Taïwan, sur des sujets essentiels. Donc, je pense que beaucoup guettent en fait, quelle va être la réaction de Xi Jinping. Et donc, ça peut ouvrir la voie à une recrudescence de tensions, justement, parce que lui aussi doit assurer ses arrières en Chine même.
Recrudescence de tensions, je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire, Valérie Niquet, sur les alliés et partenaires de la Chine dans la région. Deux événements durant la campagne pour l'élection présidentielle aux États-Unis, c'est le rapprochement philippin vers Pékin, le rapprochement de la Malaisie. Quelle analyse peut-on en faire ? Et on parlera ensuite des offensives chinoises finalement en mer de Chine du Sud. Jean-Luc Domenac.
Oui, moi je crois que ce qui est en train de se passer, c'est une forme de trumpisation, disons, du problème chinois. C'est-à-dire que les gens vont commencer à se demander s'ils vont pas changer quelque chose aussi dans leur approche. Trump, il a beau être un hybridus quand même assez rare, hein, mais au moins ce qu'il montre, c'est qu'on reste libre, figurez-vous. on reste libre face à la Chine, c'est quand même nouveau ça, hein, parce que ça fait 30 ans qu'on se croit attaché, comment dire, à toute une série de lettres motives. Les Chinois sont gentils, hein. Deux, il faut travailler avec eux. Trois, il faut les amener à devenir plus riches, comme ça ils deviendront plus sympathiques. Et puis on s'aperçoit qu'ils sont pas de, ils sont devenus plus riches, mais pas forcément toujours plus sympathiques, etc., etc. Donc je crois qu'il va y avoir en Asie du Sud-Est et un peu partout une sorte de trumpisation, c'est-à-dire que les gens vont se dire et nous aussi, qu'est-ce qu'après tout on pourrait pas faire? On ne sait pas. Moi, je vous dis pas que tout va changer. Je crois aussi que Trump devra vraisemblablement revenir en arrière. Mais la vérité, c'est que tout d'un coup, pourquoi en Chine on n'a pas notre effet trumpisant? Est-ce que notre politique, est-ce qu'on devrait pas faire un petit colloque là à 10 ou 15 et dire voyons les relations avec la Chine, qu'est-ce qu'elles ont apporté? Des choses certainement, bien des choses non. Alors moi, je crois que quand on connaît dans la Malaisie, quand on connaît les Philippines, je les connais quand même moins que notre collègue qui est là, hein, ceux-là vont se dire, bah, après tout, si Trump nous protège, etc., nous aussi, on va être un petit peu durs, vous voyez.
Vous voulez dire que finalement, va se poser la question, et c'est en lien avec ce que vient de dire Valérie Niquet sur le congrès du Parti communiste chinois, la question, en tout cas un débat autour d'une réforme politique qui viendrait compléter les réformes économiques.
Qu'avons-nous gagné à être gentils avec les Chinois? Des choses certainement, d'autres choses pas du tout. Et probablement aussi qu'en Chine, des gens se diront, eh ben après tout, se trompe. Quand même, il n'est pas stupide partout. Il traite nos dirigeants d'une façon dont peut-être on pourrait s'inspirer. Hein, on ne sait jamais, quoi. Hein. Donc voilà.
Donc alors, je me tourne vers vous, Jean-François Huchet. Finalement, une politique économique de Washington plus intransigeante, possiblement, avec la Chine?
Après, il va falloir voir un petit peu dans les faits comment tout ça va se... Parce qu'il n'y a pas que la Chine, hein. Il y a aussi le partenaire européen. Il y a quand même beaucoup de choses, on le voit avec l'OTAN. Enfin bref, il y a aussi d'autres choses qui vont influencer la politique. Revenir vers des États-Unis à l'époque de Wilson, qui serait totalement isolationniste, je pense que c'est une option qui va être très difficile pour les États-Unis de mettre en place, puisque quand même le contexte a quand même considérablement changé. Néanmoins... Si Trump est visiblement dans les nominations qu'il fait ici et là, on voit qu'il a quand même un souci d'appliquer ce qu'il a annoncé. On l'a vu avec la nomination à la tête de l'Agence américaine pour l'énergie d'un climato-sceptique. Donc là aussi, on va voir côté chinois si jamais Trump décide, alors ce qui visiblement n'est pas facile sur le plan juridique, mais de ne pas appliquer l'accord de Paris. Côté chinois, on peut tout à fait imaginer que finalement, à l'intérieur de la Chine, tous les gens qui sont pro-lobby charbon, et ils sont très très nombreux, finalement disent, bah, regardez, les États-Unis, on reviendrait à une situation un petit peu, vous vous souvenez, de Copenhague, où on disait, bah, regardez, les États-Unis ne font pas l'effort suffisant, donc pourquoi devrions-nous le faire? Donc continuons à polluer allègrement, puisque personne ne fait cet effort. Donc ça peut aussi avoir des répercussions de ce point de vue-là. Maintenant, c'est vrai que si Trump veut défendre l'emploi américain, veut effectivement se protéger contre... Il faut le reconnaître, il y a aussi dans le régime de croissance chinois des choses qui ne fonctionnent pas et qui conduisent les entreprises chinoises à déverser littéralement leurs produits sur les marchés étrangers. Et nous sommes très affectés par ces questions, parce que c'est pas une question du libre-échange, c'est une question d'avoir trop investi et de finalement de vendre à perte. Et ça remet en cause finalement les bases essentielles du commerce, ce sur quoi nous nous sommes quand même mis d'accord depuis 1947. Donc là, il y a quand même des choses qui sont très graves. Donc on va voir aussi comment les États-Unis vont réagir. Et je pense que du point de vue européen, parce qu'on n'a pas parlé de l'Europe, mais je pense que là aussi, nous devons nous situer par rapport à tout cela, c'est de voir comment les Américains vont réagir par rapport à cette globalisation et par rapport justement à l'effet Chine sur le commerce international, sur des questions financières. Il y a tout ça qui va effectivement jouer. Et puis il y a un dernier aspect, moi, qui me semble intéressant, qui est... Finalement, on voit les Chinois assez embarrassés d'accéder au dernier étage de l'hyperpuissance, c'est-à-dire l'hyperpuissance financière. C'est-à-dire qu'on les voit aujourd'hui un peu embarrassés d'un point de vue économique de vraiment tout libéraliser pour permettre à la monnaie chinoise, vous voyez, de jouer pleinement le rôle que le dollar a pu jouer. D'ailleurs, on est très très loin de ça, mais enfin, pour y arriver, il faudrait justement libéraliser. Et quand vous voyez les fuites de capitaux qui sortent de Chine aujourd'hui, je pense qu'il y a effectivement, dans le contexte du 19e congrès, dans le contexte de la stabilité politique et économique de la Chine, il y a également pas mal de gens qui se disent, ben, finalement... pourquoi aller aussi vite sur le plan économique. Donc voilà, tout ça risque d'interagir aussi avec ce que feront les États-Unis sur ces questions.
Alors, pour terminer, peut-être cette question, quels sont aujourd'hui les défis de part et d'autre dans la relation entre les États-Unis et la Chine, et la Chine et les États-Unis, Valérie Nicker?
Les défis sont extrêmement nombreux, on en a fait le tour. C'est à la fois celui du rééquilibrage économique, mais qui nous concerne aussi et qui est loin d'être résolu. Et encore une fois, le rôle des États-Unis sera tout de même intéressant à suivre dans la mesure où il remet à plat les règles. Et puis évidemment, c'est la stabilité stratégique en Asie. Même si pour Trump, on a l'impression que tout de même la guerre contre le terrorisme et le Moyen-Orient aient repris une vraie importance, la sécurité de l'Asie est d'une importance absolument essentielle dans la mesure où ça touche l'ensemble de l'économie mondiale. Encore aujourd'hui, en dépit du ralentissement de la croissance chinoise, c'est l'Asie et la Chine qui tirent la croissance mondiale. Donc on est au cœur du système, et si un conflit éventuel éclatait pour de multiples raisons, y compris la mauvaise maîtrise des relations, ça aurait des conséquences absolument extrêmement importantes pour l'ensemble de la planète. Donc les défis sont là. Comment gérer cette relation plus que complexe?
Jean-Luc Domenac.
Oui, je crois que pour la Chine, la question qui est maintenant de plus en plus posée, c'est qu'il va falloir maintenant qu'ils se mettent au boulot, quoi, hein, et qu'ils attendent un petit peu moins d'aide et de facilité de la part des petits camarades ou des grands camarades occidentaux. Il va falloir qu'ils s'inventent un modèle de croissance, il va falloir qu'ils s'inventent un modèle d'administration. Ils n'ont toujours pas d'administration véritable, hein. C'est pourri, tout est pourri. Ça la pose, disons, de façon encore plus aigu des problèmes. Mais pour nous, moi j'insiste sur nous, c'est-à-dire que nous faisons comme si depuis 20 ans maintenant, comme si ça allait de soi, une politique française et européenne de sourire et on joue aux billes avec les Chinois, sauf que c'est les Chinois qui ont les grosses billes et nous les petites, et que je peut-être maintenant le temps est venu de réévaluer un petit peu tout ça et de voir comment refonder au plan économique, au plan européen et au plan français, les relations avec la Chine. Je terminerai par une question, point d'interrogation. J'aimerais savoir, et je m'adresse aux fonctionnaires qui m'écouteront, s'il y a toujours quelques jeunes chercheurs chinois au centre nucléaire de Saclay. C'est tout. Voilà. Faut pas être très fier. On s'est laissé voler notre technologie, etc. Le temps est venu, maintenant, de reprendre un petit peu tout à zéro.
Jean-François Huchet.
Je pense que derrière tout ça, il y a aussi la question de l'émergence d'une grande puissance économique. Les États-Unis, à la fin du 19e siècle, ont eu dans cette émergence, je dirais, beaucoup de facilité, dans la mesure où ils n'avaient qu'à gérer un empire espagnol qui était déjà en décrépitude depuis bien longtemps, et puis le Canada au nord. Enfin, il y avait dans cette zone d'influence finalement assez peu de choses. Ils ont profité des deux guerres mondiales pour justement arriver à justement assurer cette puissance. La Chine est dans une situation beaucoup plus complexe, avec un environnement à la fois terrestre compliqué. On n'a pas parlé de l'Inde, mais enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'important, de la Russie, des relations avec les BRICS. Vous avez une façade maritime qui est extrêmement complexe pour justement développer cette émergence. Alors pour l'instant, elle est pacifique, mais c'est vrai que c'est tout de même le fait de savoir comment la Chine, dans les 50 prochaines années, va justement gérer cette émergence dans une zone qui est extrêmement complexe et qui peut, il ne faut pas l'oublier, il faut le garder dans un coin de sa tête, qui peut à tout moment basculer vers des choses, comme l'a dit Valérie Niquet, par moments aussi sur des choses conflictuelles.
L'occasion de reparler à nouveau de la Chine prochainement. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Valérie Niquet, responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Jean-François Huchet, professeur des universités à l'INALCO, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, La crise environnementale en Chine, évolution et limites des politiques publiques, aux éditions Les Presses de Sciences Po. Et Jean-Luc Domenac, chercheur à Sciences Po, directeur de recherche émérite aux séries. Dernier ouvrage paru, Les fils de princes, une génération au pouvoir en Chine, aux éditions Fayard. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Victor Hull. Demain, Géopolitique sera consacrée à l'hydrodiplomatie au Moyen-Orient. À demain. Ministère de la Jeunesse et